Chapitre 5. C'est ce soir-là que cela se produit, que se cristallisent toutes les angoisses diffuses de Kate à propos de Hampstead. Tilly, l'amie de Georgia, est agressée en sortant de chez eux. Kate lui avait proposé de rester dîner, mais l'adolescente avait décliné l'invitation, arguant que sa mère l'attendait. Peut-être qu'elle n'aime pas le curry, s'était-elle dit. Quelques minutes après son départ, Kate avait entendu frapper à la porte, puis sonner. Elle était allée ouvrir, et c'était Tilly, livide, visiblement en état de choc. « On m'a touchée. Il m'a touchée. » Kate l'entraîne dans la cuisine, tire une chaise, lui sert un verre d'eau et lui demande de tout lui raconter. « J'ai traversé, et j'étais là, juste de l'autre côté, près du chantier. Il y avait quelqu'un derrière moi. Il m'a attrapée. Ici, » précise-t-elle en désignant ses hanches. Et il me tirait. Il voulait t'emmener quelque part? Non, il m'a tiré vers lui. Georgia assied Tilly sur la chaise et lui prend le bras. Oh mon Dieu, tu l'as vu? Son visage? Tilly a les mains qui tremblent. Pas vraiment. Juste un peu. Je ne sais pas. Ça s'est passé si vite. Trop, trop vite. Il t'a fait mal? Non, répond Tilly en haussant la voix, comme si elle n'était pas sûre. Non, ça va. Mais... Elle regarde ses mains. J'ai peur. C'était horrible. Il avait quel âge, en gros? Intervient Kate. La jeune fille hausse les épaules. Je sais pas, bredouille-t-elle en reniflant. Il avait une capuche sur la tête et il portait une sorte d'écharpe. Il était grand? Plutôt, oui. Et mince. Je devrais appeler la police, non? L'interroge Kate tout en se demandant pourquoi elle pose cette question à une gamine de 15 ans qui vient de se faire agresser. Bah oui, putain, lâche Georgia. Bien sûr que tu préviens la police. Avant même que Kate ait le temps d'attraper son téléphone, Georgia a déjà composé le numéro. Les policiers arrivent juste avant la mère de Tilly, et la soirée se déroule dans une dimension parallèle que Kate n'aurait jamais pu imaginer, dans laquelle des officiers s'entassent dans sa cuisine avec une mère éplorée qu'elle rencontre pour la première fois. La tension la maintient éveillée plusieurs heures après le départ des agents, bien après que Tilly et sa mère sont repartis en Uber, bien après que le calme est revenu dans la maison. Kate sait que cette nuit, personne ne dormira paisiblement. Il s'est passé quelque chose de grave. Quelque chose qui n'est pas étranger à sa famille, à ce lieu, et surtout, à une part indéfinissable d'elle-même, une part sombre, à une faute qu'elle a commise parce qu'elle n'est pas une bonne personne. Elle a bien essayé de se convaincre qu'elle n'y était pour rien, mais ce soir, allongée dans son lit, l'implacable vérité la rattrape, l'écorche, la met à nu. Le lendemain matin, Kate ouvre les yeux quelques minutes avant que son réveil ne sonne, après 3 heures et demie de sommeil. Elle se tourne vers Rohan, étendue paisiblement sur le dos, ses bras bien rangés sous la couette. C'est un homme séduisant, son mari. Il a perdu presque tous ses cheveux et se rase le peu qui reste, ce qui révèle la forme étrange de son crâne qu'elle n'avait jamais remarqué en 30 ans de relation. Elle imaginait une surface lisse, comme le dessous d'une poterie, mais c'est en réalité une succession de collines et de vallées, avec la boursouflure d'une petite cicatrice. Des veines gonflées courent de ses tempes à son front. Un nez proéminent. Des paupières lourdes. C'est son mari, et il la déteste. Sans aucun doute. C'est sa faute d'ailleurs. Elle se glisse hors du lit et s'arrête devant la grande fenêtre de leur chambre. Le soleil vient à peine de se lever, il éclaire timidement les arbres et le chantier d'en face. Ce dernier ne lui paraît plus dangereux. Son regard s'attarde sur la droite, vers la maison dans l'allée de laquelle gît un vieux fauteuil. Elle songe à l'homme qui vit là, pauvre type qui a suivi Georgia depuis le métro, qui les a reluqués Tilly et elle lorsqu'il sortait ses poubelles, à ce voisin qui correspond au signalement de l'agresseur. Kate trouve la carte que le policier lui a donnée la veille. L'inspecteur Robert Burdett. Elle lui téléphone, mais il ne répond pas. Elle laisse un message. « J'appelle à propos de l'agression de Tilly Grasnicki hier soir », commence-t-elle. « Je ne sais pas si c'est important, mais je dois vous parler du voisin de la maison d'en face, au numéro 12. Ma fille pense qu'il l'a suivie dans la rue il y a quelques jours. Elle dit qu'il les a regardés avec insistance quand Tilly et elle sont rentrées de l'école. J'ignore comment il se nomme. Il a entre 30 et 40 ans. C'est tout ce que je sais. Désolée. Je voulais juste vous le signaler. Au numéro 12. Merci. Tu as parlé à Tilly aujourd'hui ? Demande Kate à sa fille un peu plus tard dans la matinée, tandis qu'elle se prépare à partir au lycée. Non. Elle répond pas. Ni à mes messages, ni à mes appels. J'ai l'impression que son portable est éteint. Mince, soupire Kate. Elle ne supporte pas ce sentiment de culpabilité, la désagréable impression que tout cela est arrivé par sa faute. Elle imagine Georgia, sa petite fille candide, agressée par un homme alors qu'elle revient de chez une amie. C'est insupportable. Puis elle pense à Tilly, si traumatisée qu'elle ne répond plus à sa meilleure copine. Elle cherche le numéro que la mère de l'adolescente a enregistré dans son téléphone la veille et appelle. Elona finit par décrocher à sa sixième tentative. « Bonjour, c'est Kate. Comment va Tilly ?» S'ensuit un long silence et Kate entend qu'on passe l'appareil. Il y a des voix étouffées en arrière-plan. « Allô ? Elona ?»« Non, c'est Tilly. »« Ah, Tilly ! Bonjour, ma belle. Comment tu te sens ?» Nouveau silence gêné. Kate reconnaît la voix de sa mère au loin. « J'ai quelque chose à vous dire, » annonce Tilly. « Oui ? Hier soir, ce qu'il s'est passé. Oui ? Ça n'est pas vraiment arrivé. Pardon ? Il ne m'a pas touchée. Il marchait juste derrière moi. Mais j'ai eu hyper peur à cause de tout ce que Georgia raconte sur votre voisin. Et je pensais que c'était lui, mais c'était pas le cas, c'était quelqu'un d'autre. Et je me suis réfugiée chez vous et... » Kate entend à nouveau des bruissements, puis la voix d'Elona. « Je suis absolument confuse. Je lui ai demandé de te le dire en personne. » « Je ne comprends pas. Je sais que de nos jours, les ados sont sous pression avec les examens, les réseaux sociaux et tout ça. Mais ce n'est pas une excuse. » Kate ferme les yeux un instant. « Elle n'a pas été agressée ?» Elle ne peut pas le croire. Le visage blême de Tilly, ses yeux écarquillés, ses tremblements, ses pleurs. « Non, » lui confirme Elona d'une voix blanche, comme si elle n'en revenait pas elle-même. Par la fenêtre, Kate voit l'inspecteur Robert Burdett monter dans une voiture de police garée de l'autre côté de la rue. Elle se souvient du message qu'elle lui a laissé quelques heures auparavant à propos de leur inquiétant voisin. La culpabilité lui noue la gorge. « Vous avez prévenu la police ?» demande Kate. « Oui, bien sûr, je viens d'appeler. Il ne faut pas qu'ils perdent leur temps, ils ont bien assez à faire comme ça. Enfin, elle s'apprête à aller au lycée, là, la queue entre les jambes. Je suis vraiment désolée. » Kate raccroche et suit des yeux la voiture de l'inspecteur, qui s'éloigne et tourne au bout de la rue. Pourquoi Tilly aurait-elle menti ? Cela n'a aucun sens. Kate travaille à la maison. Elle était kinésithérapeute, mais elle a arrêté de pratiquer 15 ans plus tôt quand Georgia est née, et elle n'a jamais repris les consultations. Aujourd'hui, elle écrit des articles pour la presse spécialisée ou des magazines d'entreprise, et de temps en temps, elle loue une salle dans le cabinet d'une amie à St. John's Wood pour recevoir des patients qu'elle connaît de longue date. Elle est donc une travailleuse à domicile, ou comme dit Georgia, une femme au foyer équipée d'un ordinateur portable. Dans la maison de Kilburn, elle dispose d'un petit bureau sur la mezzanine. Dans l'appartement de Hampstead, elle se réfugie sur la table de la cuisine. Ses dossiers sont rangés dans une bannette à côté de son ordinateur portable, mais le désordre la menace en permanence, et elle doit se battre pour que ses affaires ne disparaissent pas dans le chaos de la vie familiale. Elle ne retrouve jamais son stylo, et elle découvre parfois des notes d'une autre main que la sienne au dos de sa correspondance professionnelle. Encore un aspect qu'elle n'avait pas anticipé en déménageant ici. Kate regarde par la fenêtre. Cette maison. Elle baisse à nouveau les yeux vers son écran et démarre son navigateur. Apparemment, aucun appartement n'a été mis en vente au numéro 12 de la rue depuis 10 ans, ce qui semble incroyable pour un emplacement aussi demandé. Le terrain appartient à une entreprise écossaise nommée BG Properties. Elle ne trouve aucune autre information sur ce lot ni sur ses habitants. C'est le manoir au mystère, se dit-elle. Un lieu où les gens s'installent et dont ils ne repartent jamais, où l'on accroche des rideaux aux fenêtres sans jamais les ouvrir, où l'on laisse ses meubles pourrir dans l'allée. Elle tape « ligne de faille » avec le nom de leur rue. Elle ne connaît pas vraiment la théorie de l'alignement des sites, Mais il y a peut-être quelque chose à cet emplacement qui expliquerait l'absence totale de présence humaine le soir. Le fait que des terrains restent en friche, que les renards s'y rassemblent la nuit, que les adolescentes sont suivies et agressées. Quelque chose qui justifierait son incapacité à s'intégrer. Le profond malaise qu'elle éprouve.